This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Adib Alkhalidé.
Salut Sofiane, ça va?
Salut Adib, ça va super, merci et toi?
Ça va très très bien, très très bien, merci de me recevoir.
Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est un grand honneur.
Bah, ça fait vraiment plaisir, puis je réfléchissais avant de commencer l'entretien, je me demandais, hier en fait, j'ai essayé de penser à mes pires histoires, mais en réalité, je pense juste le début de carrière en général, c'est la pire histoire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui, bien sûr. Commencer une carrière d'humoriste, c'est une galère en soi. Oui, bien sûr.
Dans ma vie, je pense qu'il y a pas grand chose de plus humiliant et violent, mais en même temps, j'ai des souvenirs très très clairs de mon début de carrière et la chose qui me frappe le plus, c'est à quel point vraiment j'étais pas bon. Puis ça me... je suis fasciné par le fait de ne pas avoir abandonné. Quand je repense au début, je me dis vraiment pourquoi j'ai pas abandonné. C'est sûrement parce que j'aime vraiment le stand-up que j'ai pas abandonné. Mais moi, je suis vraiment pas un de ceux qui a commencé et que c'était simple. Genre, la première année, c'était vraiment, vraiment compliqué. Puis je suis passé très, très, très près d'abandonner. Donc,
ouais. Mmh. Bah, après, je pense que n'importe quel humoriste est déjà passé près d'abandonner. On a tous des doutes et on se remet en question, tout ça. Et le fait que toi, t'aies rien lâché parce que tu sentais au fond de toi que tu avais ça, c'est la preuve que t'es un vrai humoriste. Parce que quand tu te remets en question et tu te dis non, il faut juste que je travaille plus et je vais arriver à faire passer mon message, je vais arriver à faire rire les gens avec ma façon de voir les choses, c'est que là, ouais, t'es un vrai humoriste. Alors que si t'étais quelqu'un qui cherchait juste à briller, tu vois, tu vas voir que ça prend pas et tu vas dire ah ben bah, j'arrête. Alors ça marche pas, je vais me lancer vers la peinture ou vers le rap.
Il y a ce côté un peu j'ai un peu l'impression que les humoristes c'est un peu tous des malades là, dans le sens que c'est pas le malade péjoratif, c'est le malade un peu c'est ça, c'est oh, moi je pense entre l'humoriste et le SDF, il y a vraiment pas grand-chose. Moi je pense on a la même fibre en fait. Tu sais, le SDF c'est souvent, évidemment je parle pas de ceux qui se retrouvent dans la rue temporairement parce qu'ils ont des soucis et tout ça. On connaît tous des gens qui sont passés par là. Moi je parle soit de celui qui a une situation mentale qui fait qu'il vit dans la rue ou celui qui a choisi.
D'accord, ok, je comprends.
Ou pas qu'il préfère ou qui sont orientés vers ça. Et je me dis que les humoristes, on a un peu ce côté-là où on est attiré par la détresse juste au banc de la société, parce que c'est vraiment humiliant être sur scène, moi, je pense.
Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, tu as tout à fait raison. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas très très loin du déséquilibré, tout ça. Je pense qu'on devrait, on devrait y réfléchir plus souvent, mais c'est vrai que la place de certains humoristes, on ne sait pas si elle est sur scène ou dans un hôpital psychiatrique, malheureusement, des fois, tu vois. Et il y en a même qui y sont passés, tu vois. Il y a des humoristes qui sont passés par l'hôpital psychiatrique. Voilà, et ça n'en fait pas moins d'excellents humoristes. Hein. Je pense notamment à Blanche Gardin, qui a fait un séjour en hôpital psychiatrique et qui est clairement la meilleure de sa génération. Il y a toujours un trouble, il y a toujours. Je me dis souvent que si on était parfaitement équilibré, on ferait pas de scène, tu vois.
Non, moi je connais beaucoup beaucoup de gens à qui je propose ne serait-ce que de s'asseoir pour un entretien, un podcast ou un truc comme ça, et ils veulent pas du tout être observés par des inconnus, ils veulent pas être dans le public, et puis je pense que c'est la condition mentale saine. Je pense que n'importe qui est à l'aise en public ou qui est à l'aise de parler en public, il y a quelque chose qui est brisé quelque part.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Mais je dis ça avec amour, je dis ça avec amour, je dis pas ça avec mépris. Je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, mais bon, après, le problème, c'est qu'on idolâtre ces gens-là, alors qu'à la base, à la base, ils ne devraient pas. N'importe quel artiste qui se regarde dans le miroir sait qu'il ne devrait pas être idolâtré.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'ouais, il y en a certains, à défaut d'avoir un cachet, on devrait plutôt lui filer des cachets, parce que voilà, tu vois, ils sont pas loin. Moi, j'en ai vu, je te jure, j'en ai vu très très peu, hein, mais j'en ai vu certains qui montaient sur scène, et ce qu'ils disaient, en fait, n'avait vraiment aucun sens. Tu sentais que là, par contre, c'était juste de la folie pure, il n'y avait pas la fibre humoristique, tu vois, c'était juste de la folie pure. Le mec, il balançait des blagues, et c'était juste... Vraiment, enfin, tous ceux qui... Bon, je ne citerai pas le nom ni rien, mais je veux dire, tous ceux qui parlaient de ce mec-là, ils me disaient, mais c'est un fou, c'est un fou. Vraiment, mais tu sais, au sens premier du terme. Pas genre, ah ouais, lui, c'est un fou, lui. Non, non. c'est un fou, change de trottoir, tu vois, c'est vraiment...
Mais c'est ça. Mais moi, je pense que c'est un métier où tu le fais parce que tu aimes ça et le reste de la journée, tu pries que l'équilibre s'installe dans ta tête et dans ta vie.
C'est vrai.
Moi, je pense la prière pour les humoristes, ça devrait juste être ça. S'il vous plaît, genre, je reste bien accroché, j'ai ma famille, j'ai mes amis, c'est bon, je reste équilibré parce qu'après tout le reste, c'est un peu dangereux, mais en même temps, c'est magnifique parce que rire, c'est magnifique et puis faire rire, c'est magnifique et je pense qu'il faut rester proche de la beauté que cette folie génère.
Ah, mais c'est magnifique. Et puis, au pire des cas, comme je te disais au début, on peut toujours devenir peintre ou rappeur. Tu vois, ça, il y a toujours cet échappatoire-là. Ouais. Et ma question, justement, c'est à combien de semaines près on est passé à côté de l'album de MC Hadib?
MC, non, jamais. J'aurais jamais pu être un rappeur, même si j'adore le rap. Je serais pas capable de verbaliser ce que les rappeurs verbalisent. Je peux pas dire genre moi je suis le meilleur. on dirait que si t'as pas ça dans le rap, tu peux pas faire du rap.
Je comprends.
Si t'as pas ce côté-là où t'es prêt à tous les jours de ta vie, tous les jours, c'est-à-dire dans tout ce que tu fais, y a pas une track qui sort où tu dois pas au moins balancer « je suis meilleur que vous ». Moi, je pense que ça c'est. Je ne réduis pas le rap à ça, mais je pense que ça fait partie de la culture rap s'autoproclamer le meilleur. Et puis.
Ouais.
Et puis je pense que tous les artistes ont ce côté-là à l'intérieur d'eux. Le rappeur exacerbe cet aspect de la nature de l'artiste, mais je pense que ça demande quand même un courage ou une insouciance ou une nonchalance que j'ai pas. Je me préoccupe beaucoup trop de beaucoup trop de choses pour pouvoir faire ça.
Bah, tu vois, la fibre artistique et la fibre humoristique que chacun d'entre nous recherche et tout, c'est le côté doute permanent, tu vois. Pour moi, je pense que t'en as déjà vu aussi, pour moi, quand un humoriste monte sur scène trop sérieux, trop persuadé que c'est le meilleur et tout machin, le message arrive pas à passer. Même quand les blagues sont bonnes, j'arrive pas à rire parce que je sens une prétention et une arrogance qui m'empêche de rire. Alors que quand le mec monte avec un petit air de doute et tout, il y a toujours quelque chose de charmant, tu vois, et il arrive à nous embarquer. Je pense au style de Paul Mirabel, par exemple, tu vois. Voilà, Paul Mirabel, c'est clairement le mec qui joue. Alors, nous, on sait que c'est un gars qui cartonne et qui vraiment, c'est un des meilleurs humoristes du moment, mais sur scène, il laisse transparaître ce petit doute, cette petite fragilité qui fait que les gens l'ont adopté, en fait.
Ouais, mais chaque humoriste a sa propre essence. Il y a quelque chose dans son identité qui est propre à lui, bien qu'on puisse la retrouver à quelques différences près chez d'autres. Je pense qu'il y a une essence, une fibre de base, une espèce je sais pas comment dire. Tu sais, il y en a qui de nature vont avoir un comique qui puise dans la victime. D'autres dans le tyran, d'autres c'est comme Paul que tu viens de nommer, je pense qu'il y a justement un comique dans la candeur et l'espèce de un comique dans le... Tu sens que le gars, il est un peu perdu. Puis, y a toutes ces essences. C'est une essence brute, en fait, à chaque humoriste. Et je pense que ce que tu m'as décrit il y a quelques secondes, que tu dis que t'aimes pas, c'est quand il y a un décalage entre l'essence véritable de quelqu'un et ce qu'il essaie de projeter. Moi, je pense que ça se sent tout de suite. Après, il y a des artistes, il y a des humoristes qui sont plus techniciens que d'autres, c'est-à-dire ils sont plus dans la technique, ils sont plus dans le travail ingénierique de la blague. Et puis, je pense que c'est tout aussi valable si c'est dans l'essence de la nature de la personne, si c'est dans son caractère qui est propre à la personne. Mais sinon, je pense qu'on a une réticence avec les humoristes quand on sent que ce qu'ils projettent, c'est pas nécessairement eux. Parce que, tu sais, il y a quelque chose de vulnérable dans le fait de prendre ce que tu as de plus vrai à l'intérieur de toi, et puis de créer ton comique autour de ça. Moi, je pense que ça peut être très, très intimidant au début.
Ben, c'est sûr qu'on a tous une période d'ajustement où on va essayer de trouver son clown, comme on dit. Mais moi, après, ça ne me dérange pas à partir du moment où on sent une sincérité. Tu vois que la personne, elle n'essaye pas de, par exemple, de faire rire avec des sujets choquants juste pour choquer. Tu vois, faut qu'on sente. Tu vois, les personnes arrogantes. Alors, bien évidemment, je remets pas en question le travail de ceux qui jouent les faux arrogants. Tu vois, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui jouent les mecs. Bah, tu vois, je pense à Franck Dubosc à l'époque, qui jouait le beau gosse, tout ça. Mais en vérité, c'était un loser qui se prenait pour un beau gosse, et on le comprenait et on acceptait ça. Mais il y a des gens qui montent quasiment au premier degré, tu vois, en disant je suis le meilleur et vous n'êtes limite pas digne d'écouter ce que j'ai à vous dire, quoi.
Ouais, mais je pense, je vais dire quelque chose de grave, mais parce que je le pense, moi je pense que tous les humoristes, c'est juste des losers qui s'assument pas. Non, mais parce que au fond de moi je suis comme, dans le sens que genre, je me suis jamais senti cool quand j'étais petit, j'avais pas, j'avais, j'étais toujours ami avec les gens par accident, et personne ne me voulait vraiment dans son cercle, les
D'accord.
filles voulaient pas de moi.
Ah.
Je veux dire, c'est pas. Je pense que ce que les gens voient quand on est sur scène, c'est le côté magnifié d'un loser qui se cache. C'est
D'accord.
une identité qu'on. Mais quand même, je pense qu'il y a une fibre. En tout cas, moi, je vois dans mon style qu'il y a une victime dans tout ce que je fais. Il y a un gars qui est victime de quelque chose. Et je pense que c'est là que je suis drôle, parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui se voit vraiment comme une victime. Mais plus je vieillis, plus je suis un adulte, je me vois plus comme ça. Mais quand j'étais plus jeune, je pense que c'est un côté de ma personnalité que j'assumais pas, un côté un peu genre, je subis la vie. Je la subis
Ah,
au lieu de la,
d'accord.
au lieu de la, au lieu de, au lieu de, je sais pas, de partir à l'aventure courageusement. Je subis cette vie. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que pour moi, ce côté-là que je décris, subir la vie, c'est plus quelque chose que je maîtrise pour le métier, et j'essaie de pas laisser ça rentrer dans ma vie à moi, ma vie personnelle. Mais oui, je pense qu'il y a un côté. Moi, je suis sûr que, tu sais, tous les artistes, c'est juste des losers, là. Mais sauf que pour rire de nous, le bon Dieu, il nous met dans des situations où les gens, ils disent bravo, bravo, bravo. Juste pour que le soir, on arrive chez nous et qu'on réalise à quel point on est des merdes.
Je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, monter sur scène, je crois qu'on a tous, bah, tu vois, le côté loser dont tu parles, on l'a tous. Et moi, le premier, franchement, je me reconnais dans beaucoup d'humoristes quand ils disent j'ai fait de la scène parce que je cherchais à être aimé, en fait, tu vois. Pas le côté notoriété, pas le côté starification, tout ça. Non, non, non. Le côté vraiment, je veux monter sur scène, même devant 10 personnes, mais je veux juste qu'elle me valide, en fait. Je veux juste qu'elle me donne cet amour dont j'ai manqué quand j'étais adolescent au collège, etc.
Oui, je veux pas réduire non plus, je veux pas réduire non plus le métier à des déclarations aussi simplistes qu'on est tous des losers. Je pense que tous les êtres humains sont tellement complexes, puis il y a beaucoup y a beaucoup de force et de traits de caractère qui rentrent en compétition, tu sais. Mais il me semble que le loser, dans le fond, pour moi, je dis ça avec amour encore parce que je me rappelle, la table des losers à l'école. Moi, il y avait les cools. Et puis, t'avais les losers qui se retrouvaient tous à la même table.
D'accord.
Et puis, c'était ceux qui observaient un peu les autres, les cools, et qui se disaient, genre...
On aimerait être comme eux, ouais.
On aimerait être comme eux, mais en même temps, on veut pas être comme eux. C'est ça qui est drôle avec les losers, c'est qu'ils veulent être cool, mais en même temps, ils veulent pas être cool. Et puis, je trouve que c'est ça qui fait le charme des losers. Moi, c'est ça que, quand je le dis vraiment avec beaucoup d'amour, parce que sinon, je le dirais pas. Je parle pas des choses que j'aime pas parce que j'en ai rien à faire, mais vraiment, je dis ça avec tout l'amour du monde. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de profondément beau dans le fait de, genre, être en marge, développer une espèce de sentiment de personne même, et puis après ça, genre, goûter à l'amour et réaliser que c'est pas ça la solution, tu sais. Il y a quelque chose de drôle là-dedans. Il y a quelque chose de drôle.
Ben oui, ben, la scène, c'est quelque part une thérapie pour beaucoup d'entre nous. Moi, je sais que vraiment, quand je monte sur scène, tu sais, comment dire, quoi qu'il se soit passé dans ma journée, si jamais je monte sur scène et que les gens rigolent et qu'ils me donnent de l'amour, tout ça, je sais qu'après je repars et j'ai l'impression d'être un peu moins mal dans ma vie, tu vois. C'est des choses comme ça, en fait. Et à l'inverse, même si ma journée s'est très bien passée, si je monte sur scène et que je bide totalement, je bombe, tu vois, genre voilà, ouais. si jamais je plante complètement le passage, vraiment, je vais sortir de là, et même si ma vie, tout va bien, grâce à Dieu, tu vois, je vais me dire, ah, ça va pas, je suis pas bien, tu vois, il me manque quelque chose, et c'est dommage, parce que c'est notre pire drogue, la scène, en fait, tu vois, c'est la drogue plus addictive que l'héroïne ou la cocaïne, tu vois,
ouais,
et,
ouais.
Et en ce moment, en plus, on est quasiment privé de cette drogue, donc je me rends compte, avec toute cette histoire de Covid et tout, que c'est pire que n'importe quelle drogue, parce que, à la limite, t'arrêtes la coke pendant quelques temps, tu peux t'en remettre, je pense, tu vois, je parle pas en connaissance de cause, hein. Mes parents écoutent peut-être le podcast, voilà.
Il n'y a pas de cure de désintox pour des humoristes qui sont privés de scène. Mais d'un autre côté, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la scène?
Ça fait 8 ans à peu près.
Tu vois, moi, ça fait 12 ans. La première fois que je suis monté sur scène, j'avais 19 ans, j'ai 33 ans. Donc, ça fait 14 ans. Mais
14 ans.
Les 3-4 premières années, j'ai dû en faire 3 ou 4 fois. Mais ça fait quand même 14 ans que j'ai mis un pied pour la première fois sur scène. Et ben, je réalise que j'ai pas vraiment pris de répit depuis que ça a commencé à rouler. Donc moi, je t'avoue que j'aime bien cette année sans scène. Mais c'est effectivement, c'est une drogue. Je veux dire, quand 150 personnes te... Je dis 150 parce qu'on jouait dans des 150 avant le truc, mais ça peut monter à 3 000-4 000. Puis quand des milliers de gens te disent waouh, bravo, c'est extraordinaire et tout ça, je sais pas si c'est juste le rire en fait qui devient une drogue, ou si c'est pas la validation et l'admiration qui rentre en ligne de compte. Et puis tu sais, entre artistes, il y a personne qui se promène puis qui dit « Ah, j'adore être admiré », mais ça, c'est... Il y a personne qui dit ça, et il y a Anguille Souroche, parce qu'en fait, s'il y a une chose qui est en très forte corrélation avec le succès sur la scène, c'est l'admiration. Les gens t'écrivent « Waouh, t'as changé ma vie, t'es extraordinaire, t'es ci, t'es ça », et puis tu sais, c'est le seigneur des anneaux, là, tout le monde veut la bague, puis ils deviennent fous pour ça, puis la clé de la bague, c'est qu'il faut la... Moi, j'ai pas vu tout le seigneur des anneaux, mais j'ai vu une scène où ils jettent dans la lave à la fin, ou quelque chose comme ça, ils jettent la bague, puis je pense que c'est ça, l'admiration, il faut l'acheter aux poubelles, et puis c'est ça le défi, parce qu'après ça, je pense que si on est capable de faire ça, peut-être que s'ouvre à nous la possibilité de vraiment juste aimer le métier de parler avec nos concitoyens et de les faire rire. Et puis, ça donne un vrai sens au travail, parce que moi, je pense que l'artiste, il appartient au peuple. Et quand je dis il appartient au peuple, ça veut pas dire qu'il doit le conforter dans ce qu'il a envie d'entendre. Ça veut dire qu'il doit lui dire la vérité par rapport à ce qu'il a ressenti. Et puis, ça finit là. Ça, pour moi, c'est ça l'espèce d'accord qu'il y a entre le public et l'artiste quand c'est sain. Quand c'est malsain, je pense que d'un côté comme de l'autre, on a des attentes. L'artiste attend à être admiré et le public attend à être diverti tel qu'il le souhaite. Mais moi, je pense pas que c'est une bonne nouvelle quand un artiste fait ce que les gens veulent. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Je pense que chaque artiste devrait juste dire sa vérité et puis ça finit là. Mais en même temps, je vais peut-être changer d'avis là-dessus, je sais pas.
Moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Je sais que la sincérité, c'est une des choses qui me plaît le plus dans l'humour. Quand je sens que la personne est sincère et se livre et arrive à me faire rire avec quelque chose de sincère, j'apprécie plus que quelqu'un qui va inventer une histoire de A à Z, tu vois.
Exactement.
Et toi, donc, dans tes débuts, quand tu as commencé, tu as cherché déjà cette sincérité ou tu as
Non, non, pas du tout. Moi, je pense que quand on commence, on se l'avoue pas, mais on essaie juste de copier un peu tout ce qu'on aime. On essaie de copier les gens qu'on aime, puis on se joue à des jeux un peu particuliers avec soi-même, là, des jeux un peu bizarres où ah, j'ai vu telle chose, mais je vais pas l'admettre que c'est un peu ça que j'essaie de refaire. Et puis il y a une espèce d'aveuglement volontaire au départ qui est normal. Puis je pense que tu sais, plus on s'éloigne de notre essence, plus on va souffrir. Ça s'applique à la vie en général, mais ça s'applique sur scène aussi. C'est-à-dire, je ne peux pas bider si je suis moi-même. Parce que je suis moi-même. Il n'y a pas de conséquence à être soi-même. C'est-à-dire, OK, les gens ont pari. Fine. C'est comme une mauvaise journée au boulot, mais ça dit rien sur moi qui je suis comme personne. Moi, j'ai été qui je suis, je sais que j'aime ce que je fais et tout, mais je pense que quand tu commences, t'essayes d'être quelque chose que t'es pas nécessairement, ou j'ai déjà vu des gens que dès le début, ils sont exactement qui ils sont, et puis ils vont galérer juste parce que ça prend un peu de temps avant de maîtriser son style, mais je pense que moi, j'ai souffert au début parce que j'essayais d'être quelqu'un d'autre que je n'étais pas. Et puis c'est ça. Ça m'a pris du temps. Et chaque fois que j'ai pris de l'expérience, tu sais, il y a des journées où je quitte. J'ai 2-3 jours marquants dans ma vie où j'ai quitté la scène et je sentais que je venais de m'améliorer. M'est arrivé 2-3 fois, genre sur 14 ans de scène, 2-3 fois j'ai quitté la scène et j'ai fait « Oh, je pense que là, je viens de m'améliorer. » Parce que un peu comme dans un jeu vidéo, quand tu bats un monstre ou un je sais pas comment vous appelez ça, vous, mais un boss. Tu bats un boss dans un jeu, puis là, ça fait 40 fois que tu essaies de battre le boss, puis tu n'as pas été capable. Mais là, tu l'as battu et tu le sais que, genre, c'est fini. Maintenant, tu sais comment battre ce boss-là. Il va peut-être réapparaître, mais tu sais comment celui-là, ce tableau-là, tu sais comment le battre. Et je pense que à chaque fois que j'ai battu un de mes propres démons, en fait, c'est ça, tu les apprivoises. Et puis, moi, je pense qu'il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose de tu sais, le phénix dans Harry Potter, là, qui renaît de ses cendres, là, qui vient le sauver. Je sais pas si t'as vu les Harry Potter, mais.
Oui.
Moi, je suis obsédé par les Harry Potter. mais tu sais, c'est un archétype, c'est un symbole qu'on retrouve à travers toute l'histoire de la littérature et puis de l'art oratoire, le phénix qui renaît de ses cendres. Et je pense que c'est un peu la clé pour les artistes ou même principalement les humoristes. On monte sur scène puis on ne fait qu'être consumé par ce qu'on fait. Et puis, à un certain moment, on réalise que nous ne sommes qu'un tas de cendres. Et genre, c'est juste quand tu acceptes ça que tu renais. Je pense que moi, les moments les plus marquants au début de la carrière. Ouais, il y a des. Tu sais, j'ai des souvenirs. J'ai pas d'autre mot pour le dire, mais j'ai des souvenirs, des bides tellement intenses que je sens mon âme quitter mon corps. Je te jure, oh. quand je regarde dans mes souvenirs, c'est comme un morceau de moi. Je dis que c'est mon âme, je suis persuadé que c'est ça. D'accord. Elle part. Elle part. Pas genre, elle m'abandonne, mais genre là, t'essayes d'être quelqu'un que t'es pas. Bam! Et là, ça part. Ah ouais, et là, d'accord. Ça part. Et là, je me retrouve un peu. Je sais pas, moi, j'ai cette relation-là avec l'âme. J'ai l'impression que elle observe nos actions et quand nos actions ne sont pas en synchronicité avec notre conscience, l'âme, elle fait ciao. moi je quitte le bateau, tu m'appelleras quand tu seras honnête. Et puis j'ai des souvenirs de ça et je pense pas que moi je voulais mal faire. Moi j'essayais juste de survivre en essayant d'être ce que je pensais que c'était, être sur scène.
Mais ça t'arrivait sur des passages de 5, 10, 15 minutes ou ça t'arrivait sur un spectacle entier?
Oh, moi, au début de la carrière, c'est tout simplement des bids entiers, là, de 10, 10 minutes, 15 minutes, pas un rire, rien.
Ah, ouais, ce qu'on appelle un tunnel, quoi.
Ah ouais, les gens veulent pas te parler après, tout le monde t'évite. les artistes t'évitent, il y a personne là. Mon pire souvenir, c'était je venais juste d'être accepté à l'école de l'humour. Parce que j'avais été accepté, j'agissais comme quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. J'agissais avec un excès de confiance et tout. Et puis j'avais été engagé sans salaire, évidemment, juste pour visibilité. J'avais été engagé pour animer un spectacle d'humour pour une levée de fonds. Je ne sais pas si vous avez ça en France, mais si vous ne l'avez pas, j'espère que je lance la mode en France. On appelle ça des soupers spaghettis.
Non, on n'a pas le terme, mais en gros, des soirées caritatives pour lever des fonds pour des associations humanitaires, on en a, oui, bien sûr.
Exact. Et donc, les gens, donc, vu que le spaghetti, ça coûte pas cher à faire, donc c'est ça qu'on sert aux gens. Puis, donc, les gens viennent manger un spaghetti, puis ils regardent un spectacle.
Ah d'accord, donc moi je pensais que le mot spaghetti c'était juste un terme générique pour désigner le souper, tu vois. Alors que là, non, c'est réellement techniquement des spaghettis.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Spaghetti, quoi.
C'est vraiment des spaghetti bolognaise, genre avec... genre les gens sont assis, ils mangent des spaghetti bolognaise. Puis toi, t'es là en train de faire des blagues.
D'accord. Wow. Bah écoute, ça me rappelle un autre concept que vous avez au Québec, c'est le couscous avec Oncle Fofi.
Oui, ça c'est un show concept de Fofi.
Oui, voilà. Donc, c'est beaucoup voulu. Mieux. Oui, voilà. Non, totalement. Je sais que c'est pas pour une levée de fonds, mais je veux dire, du coup, les gens sont peut-être, ils préfèrent peut-être le couscous au spaghetti, je sais pas.
Ça. Non, mais le couscous, c'était vraiment cool. Un souper spaghetti, c'est vraiment triste. C'est comme, t'as tous les parents des étudiants qui sont là, genre, pour la levée de fonds et tout. Ils ont pas vraiment envie d'être là, mais bon, ils sont là pour encourager. Et dans le cadre de ce souper-là, c'était mon ex-copine qui m'avait dit, bon, t'as été accepté à l'école de l'humour, donc tu connais des humoristes, tu sais, est-ce qu'on peut organiser un show, on veut 4-5 humoristes et tout. Et moi, j'animais, et donc pour animer, tu sais, je devais un peu réchauffer la salle et tout, faire des jokes. Mm-hmm. Et j'ai quelques jokes, et j'ai jamais joué devant des adultes. Jusque-là, dans ma vie, j'ai joué juste devant des jeunes. Ouais. Puis les jeunes sont... Autant ils ont... On a tous, tu sais, comme jeunes comme vieux, tout le monde a ses qualités, ses défauts, mais je pense que les jeunes sont un peu plus faciles à faire rire que les personnes, les adultes. Les adultes, c'est un peu plus compliqué.
C'est peut-être parce que vu que tu as commencé quand même assez tôt, tu avais peut-être aussi moins de différence d'âge avec eux, donc ce que tu disais leur parlait plus.
Exactement. Et moi, j'avais joué que devant des jeunes, et là, j'avais que des têtes blanches dans la salle. C'était des... Et là, je commence à faire mes jokes et il n'y a rien, rien, rien qui marche. Et je vois mon âme s'en aller. Et là, et je vois mon ex-copine et ses parents me regardent comme. Et là, je me dis, mais ça, c'est comment je rencontre mes beaux-parents, genre? Genre, la honte là, tellement profonde là, comme une humiliation que je peux pas
D'accord.
décrire. Et là,
D'accord. Bah, du coup, je comprends pourquoi tu utilises l'expression ex-copine, hein, je comprends.
ah ouais, c'est ça, exactement. Et là, je fais mes jokes, il y a rien qui rentre, rien. Je dois présenter le gars, le premier, je le vois du coin de l'œil, il est en colère. Il est en colère parce qu'il dit, ce gars-là a été accepté à l'école de l'humour. Genre, c'est lui qui me présente, c'est moi qui ouvre le show avec cette merde qui vient de refroidir la salle. Et là, moi j'avais préparé des petites jokes sur lui.
Aïe.
C'est un gars qui faisait beaucoup d'humour, d'observation, mais j'avais plus aucune confiance pour faire mes jokes. Et je te jure, j'ai dit, comme ça, sur ce ton, j'ai dit, le premier invité ce soir.
Très solennel, quoi.
Très solennel, j'ai dit le premier invité de la soirée, il fait beaucoup d'humour, d'observation.
Ouais, donc c'était très 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 plat comme description, quoi.
Attends, là j'ai dit, il peut regarder quelque chose pendant 7-8 heures. Et là j'ai nommé son nom.
Oh.
J'ai déposé le micro par terre. Parce que je trouvais pas le stand. Je trouvais pas le trépied. Alors j'ai déposé le micro par terre et je suis sorti dehors. Genre, j'ai pas marché vers la coulisse, j'ai marché vers dehors. Parce que genre, j'entendais le gars. Il m'a ramassé quand il est monté sur scène.
Il
Puis
t'a un
ça, c'est.
peu roasté
Ah
quand
oui,
il a pris le micro,
il m'a bien roasté. Puis après ça, je l'ai entendu vraiment. Je l'ai entendu dire comme ce gars-là est tellement pourri. Puis lui, il avait été refusé à l'école de l'humour. Et
là 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 là!
ça le faisait vraiment chier. Ce gars-là a été pris au lieu de moi. Puis en tout cas, genre, c'était quelque chose de. C'était. Ça, je pense pas avoir vécu un pire bide que celui-là, mais en même temps, j'en ai vécu d'autres. J'ai vécu d'autres trucs comme ça.
Là, malheureusement, tout était fait pour que tu passes une soirée très très longue, on va dire, parce que non seulement tes blagues ne marchent pas et il faut que tu annonces le prochain humoriste, et on sait bien que le rôle du présentateur, le MC, c'est vraiment lui qui doit mettre les gens dans l'ambiance et faire en sorte que le premier humoriste arrive et que le public soit chaud. Alors que là, tu les avais, malheureusement, contre ta volonté, tu les avais refroidis, déjà premièrement. Deuxièmement, tu présentes le gars, t'arrives même pas à retrouver le pied de micro, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, ça arrive. et tu poses le micro par terre, donc l'autre a dû dire, mais il le fait exprès ou quoi? Et troisièmement, il se dit, moi j'ai été refusé et lui on l'a accepté. Donc vraiment là, tout était réuni pour une soirée très très creepy, tu vois, très bizarre quoi.
Ah ouais, en plus, c'est ça. Ouais, non, j'étais avec d'autres gars qui avaient été refusés. Et moi j'avais été pris, et puis là, s'en est suivi une espèce de. Il a été pris parce qu'il est arabe, ils veulent faire de la place à la diversité, c'est pour ça qu'il a été
Oh.
pris, il est pas bon et tout ça. Oh ouais. Là j'ai eu une espèce de réputation comme ça pendant un certain temps en début de carrière. Ça m'a pris 3 ans avant d'avoir une micro idée de ce que je voulais faire. Je te dirais qu'avant ça c'était juste des pâle copie de ce que je pensais que je pouvais être en voyant quelqu'un d'autre. Et puis ouais, voilà, c'est pas c'est ça m'a pris 3 4 ans là avant de me réveiller un matin ou de me pointer sur scène et d'avoir une idée de qui je suis vraiment sur une scène.
Non, mais de toute façon, c'est normal. Au début, on cherche un peu, on tâtonne. Et la plupart du temps, on l'a tous fait, moi le premier. On s'inspire, c'est une espèce d'amalgame de, oui. des personnes qui nous inspirent. Et on essaye de retranscrire ça avec nos mots, tu vois. Mais on va prendre leur style, on va prendre leur construction de blague, tout ça. Et ouais. après, petit à petit, on va s'en détacher et on va aller vers son propre clown. Ça met du temps. Pour certains, c'est très rapide. Pour certains, c'est beaucoup plus long. Voilà, pour d'autres, carrément, ils le trouveront jamais. Et encore pour d'autres, ils l'avaient dès le départ, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, c'est compliqué, mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait à se poser la question si c'est la bonne chose à faire ou pas. C'est que, naturellement, de toute façon, quand tu vas monter sur scène en ayant consommé du stand-up avant, tu ne pourras pas faire autrement que de t'imprégner de ce que tu avais déjà vu. C'est normal, c'est un réflexe humain, tu vois.
Non, moi, je pense, oui, t'as raison. Moi, je pense que chaque artiste, et puis après, ça peut-être qu'on pourrait étendre la réflexion sur la vie normale aussi, sur juste la construction d'un individu, mais je pense que chaque artiste est la somme de tout ce qu'il aime plus lui.
Ah, c'est vrai. Voilà,
je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire tout ce que tu as aimé dans ta vie, ça a résonné en toi parce que ça existait aussi, la possibilité existait en toi. Mais la clé pour pas être seulement les autres, c'est de trouver le plus un qui est toi. Et là, ça devient unique. Là, la sauce, ça devient vraiment unique. Parce que, tu sais, tout le monde, tu sais, des sauces bolognaises, tout le monde est capable d'en faire. Mais après, c'est comme tu goûtes la tienne et tu fais, mais moi, la mienne, je mets un peu plus de ça, puis je mets un peu plus de ça. Et c'est ça qui fait que les humoristes, on est juste des sauces bolognaises.
Je crois que c'est la plus belle définition. Les humoristes, on est juste des sauces bolognaises. Et étant donné mon amour pour la nourriture, ton image me parle parfaitement, tu vois. Et peut-être que ça vient de là, au final, les soupes et spaghettis. C'est juste quelqu'un qui s'est rendu compte que les humoristes étaient des sauces bolognaises. Donc, il s'est dit, autant faire un plat qui soit en accord avec eux-mêmes. C'est magnifique, c'est très beau. Et en tout cas... On a tous des recettes un peu différentes. Ah, toi tu mets du piment, toi tu mets ci, toi tu mets ça. On a chacun des recettes différentes et on joue tous des instruments différents en fait. Je sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'est Louis C.K. à l'époque qui avait dit qu'on jouait tous des instruments différents. Tu peux pas comparer un bassiste et un batteur. Tu vois, tu peux pas. Tu peux pas comparer un guitariste avec un mec qui joue du triangle. Tu vois, tu peux pas. C'est chacun a sa partition et tout le monde est nécessaire dans ce monde de l'humour. Tu vois, tout le monde est nécessaire, toutes les personnalités et tout. Et une fois qu'on a trouvé notre style, on va proposer ça. Alors des fois il y a un créneau qui existe déjà. Des fois c'est à nous de créer ce créneau. Mais je pense que tu as raison. Il faut vraiment se rapprocher le plus possible de ce qu'on est, nous, en tant qu'individu, quoi.
Ouais, moi, il y a une analogie que j'aime beaucoup pour m'expliquer ces choses-là, c'est que, tu sais, des fois, on se complique la vie, on essaie de comprendre les choses, alors que certaines solutions sont en nous, au sens propre, c'est physique, là, c'est-à-dire la façon que le corps est construit. Le foie, c'est le foie, le pancréas, c'est le pancréas, les poumons, c'est les poumons. Il n'y en a pas un qui essaye d'être un autre. Tu comprends?
Ah, c'est sûr. Et heureusement.
Et heureusement, le foie n'essaye pas d'être un poumon, là. Ils ne se battent pas entre eux, là, pour dire donne-moi de l'air, donne-moi l'oxygène, c'est moi qui vais le traiter. Et puis, le fait qu'on existe, c'est l'harmonie de chaque rôle, de chaque organe qui occupe son rôle. Et puis, je pense que c'est la même chose dans un écosystème artistique. C'est OK, tu regardes autour de toi et tout, puis si tu es capable d'identifier un peu c'est quoi ton instrument à toi, quel est ton organe, et puis de pas essayer d'être un poumon si tu es un foie, tu sais. C'est un peu ça c'est un peu ça l'idée derrière cette analogie.
Mais c'est totalement ça. Il faut aller là où on est le plus sincère et là où on se sent le plus à l'aise. Parce que un humoriste qui va faire des blagues, moi j'ai déjà vu, tu vois, je pense surtout à l'humour noir. J'ai vu des humoristes qui essayaient de faire de l'humour noir, mais tu sentais qu'au fond d'eux, ils étaient pas du tout dans cette vibe là, tu vois. Ouais. Tu sentais que ils faisaient ces blagues là juste Parce qu'ils se disaient, c'est dans la mouvance actuelle. Il y avait eu le succès à l'époque de Jérémy Ferrari, par exemple, et il y en a beaucoup qui se sont inspirés de lui. Et donc, ils faisaient des blagues choquantes, mais tu sentais dans leur regard et dans leur interprétation qu'après la blague, c'est comme s'ils reniaient un petit peu la blague qu'ils venaient de faire, tu vois. Et ils se sentaient pas bien. Ils essayaient techniquement, ils essayaient d'être des poumons alors que c'était des foies ou inversement, tu vois. C'est exactement ça.
L'honnêteté est indémodable.
Oui. On pourra jamais te reprocher d'être toi-même, quoi.
Non, impossible. Des fois sur le coup, oui. Des fois, ça prend un peu de temps. Il y a un aspect très conservateur à la nature humaine. Ça prend du temps, des fois, pour les gens, pour devenir flexible par rapport à quelque chose de nouveau. C'est pas parce que c'est dur au départ que un jour les gens vont pas être fier de toi et te féliciter et t'encourager. Moi, ma mère, elle a tout fait pour que je devienne pas un humoriste. Ma mère, elle dit elle-même que chaque jour de mes auditions à l'école de l'humour, elle a prié les cinq prières par jour. C'est ce qu'on concluait par s'il te plaît, mon Dieu, fait qu'il soit pas pris parce qu'elle avait tellement peur que je prenne un chemin qui fonctionne pas. Alors que mes parents avaient tout quitté pour que juste que j'aille un diplôme universitaire. Et puis, moi, j'ai 19 ans et tout. Je suis pas nécessairement un ange à ce moment-là dans ma vie et tout. Je m'en vais dans une direction qui est pas très claire. Ma mère avait peur. Donc, elle espérait vraiment que j'aille dans quelque chose de plus stable.
Oui, et c'était de l'amour, en fait. C'était pas pour t'empêcher de vivre ton rêve.
Mais aujourd'hui, c'est elle qui m'encourage le plus.
Ah ben voilà, c'est le plus important, bien sûr.
Ben oui, parce que c'est pas parce que quelqu'un a de la résistance à ton rêve ou à ton identité qu'il ne sera pas en mesure de l'aimer inconditionnellement quand cette identité là sera claire, sera achevée. Et puis je pense qu'il faut pas en vouloir aux gens qui sont pas en mesure de voir ce que toi-même t'as pas été en mesure de créer encore. C'est normal. Donc la période de résistance avant que les gens voient ce que c'est, je pense pas qu'il faut nourrir des sentiments
de rancœur.
Oui, c'est le bon mot. Merci parce que c'est ça. La rancœur par rapport à ces choses-là, non. Déjà la rancœur en général, on doit s'entraîner à pas aller là, mais il y a des situations comme celle-là où on aime se dire « Ah, personne n'a cru en moi et tout. » Mais c'est normal que personne ne croit en toi au début parce que ce que tu fais, c'est pas clair.
Oui.
quand c'est clair, les gens, en général, règle générale, ils sont contents pour toi.
D'accord. Non, mais c'est vrai que souvent, c'est le réflexe des parents de dire non, tu devrais pas faire ce métier-là, tout ça, c'est compliqué, c'est un métier très difficile, un milieu encore plus difficile. Donc, c'est un réflexe de protection. Ils veulent en fait nous éviter des souffrances, les souffrances qui sont liées à la scène, au monde du showbiz, tout ça. Et finalement, on s'y confronte. Et ensuite, on peut les rassurer en montrant, comme ce que tu as fait toi justement, on peut les rassurer en montrant que ce n'est pas une lubie, c'est pas quelque chose qui nous a pris un matin. Et voilà, non, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent viscéralement. On a envie d'être sur scène et de partager avec les gens. Et une fois que notre art devient plus clair et devient plus proche de nous, là, à ce moment-là, je pense que c'est une bonne chose après que ces personnes-là qui avaient peur pour nous puissent venir voir l'évolution et nous dire j'ai eu peur pour toi mais finalement je suis avec toi, je te soutiens, bravo à toi, tu as mais c'est normal.
Ça demande beaucoup d'humilité de la part de la personne qui avait peur pour toi et qui n'y croyait pas de venir te dire ça. Juste ça, c'est une leçon. Juste ça, pour moi, c'est une grande leçon de dire waouh, comme elle n'y croyait pas du tout. Et puis maintenant, elle revient me voir et elle me dit non, c'est moi qui... C'est, aujourd'hui, je serai la personne qui va le... Je sais pas comment dire cette phrase. Il y a trop de mots qui viennent en même temps dans ma tête, mais je vais t'encourager plus que quiconque. Je pense que c'est une leçon qui s'applique très bien dans d'autres sphères de la vie.
Ah, mais c'est une très belle façon de voir les choses et c'est vrai que il faut juste essayer de faire au mieux et puis comprendre aussi ces gens-là parce que quand on a des enfants, tu vois, moi j'ai 3 enfants, je sais que mes enfants, s'ils m'annoncent un projet dans leur vie, je vais avoir d'abord le réflexe de parent de me dire est-ce que c'est une voie viable, tu vois, est-ce que c'est quelque chose de correct, est-ce que il y a de l'avenir dans cette voie-là, tout ça. Je vais toujours avoir peur, tu vois, ça c'est pas le côté j'ai pas envie de les encourager, c'est que j'ai pas envie qu'ils souffrent, tu vois. C'est de la protection en fait, mais après évidemment si ils mettent tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir vraiment réaliser leurs rêves et que ce soit une voie qui finalement réussisse pour eux, je serai le premier content et bien évidemment au cours du chemin s'ils ont besoin de mon soutien, je leur apporterai. Le but c'est vraiment de leur faciliter la tâche pour que ils aient le plus de chances possible de réaliser ce rêve que moi-même j'essaye de réaliser en ce moment, tu vois, j'ai le rêve de l'humour. Je suis bien placé du coup pour les comprendre si eux ils ont des rêves, tout ça, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour leur faciliter et essayer de leur donner une lucidité sur la réalité, parce que malheureusement des fois les gens voient un rêve mais ils ne voient pas toutes les embûches qu'il y a autour, tu vois.
Exactement, exactement. Puis je pense que moi je pense que la meilleure façon d'honorer quelqu'un que t'aimes comme tes parents, c'est d'aller au bout de toi contre vents et marées et d'accepter que c'est une forme d'amour aussi, des fois, d'être subversif et dire, OK, tu vois pas ce que je vois, mais je vais y aller. Et puis, Inch'Allah, on verra ce qui va se passer. Mais ma conscience me dit que c'est la chose à faire. Et puis, donc, voilà. Il y a que nous qui avons accès au parleur qui est à l'intérieur de notre tête. et les haut-parleurs qui a dans le cœur.
Ben oui, et on sait pas, parfois on sait, il y a quelque chose de viscéral en nous qui nous dit t'inquiète pas, t'es sur le bon chemin, continue à travailler, tu vas y arriver. Et c'est, je pense, la voie que tu as suivie toi et qui a porté ses fruits au final. Et malheureusement, des fois, on ne sait pas comment traduire ce besoin viscéral d'être sur scène ou de réaliser un rêve quelconque. On sait pas comment le. On n'a pas les mots pour l'expliquer aux gens autour, mais on a juste envie de leur dire fais-moi confiance, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver, je te promets de ne pas te faire honte et de ne pas me mettre dans les problèmes, quoi.
Ouais, ouais, exactement, exactement, je suis totalement d'accord.
Ok, ben merci beaucoup. Et donc tu avais, je crois, une autre anecdote concernant donc ton début de carrière.
Ben, pas début de carrière nécessairement, mais je sais pas si c'est le début, ça fait à peu près 5-6 ans, donc c'est milieu de carrière.
D'accord.
Ça, je pense, c'était le pire show de ma vie, mais tu vas me... Peut-être les gens ils vont peut-être même pas rire, mais moi ça me fait rire. Donc c'est ça qui compte. Hein, que je dis aux gens, moi ça me fait rire, donc faut pas.
C'est le plus important.
J'étais en spectacle à Québec au grand rire de Québec, qui s'appelle le Gala Comédia.
Ah hein.
Oui. J'étais sur le gala d'un gars qui était réputé pour faire beaucoup de jokes racistes, ok. Ouais, et ça commence comme ça, là. Genre, le gars, son public, c'était vraiment, genre, des gens qui, je sais pas si on pourrait dire, qui aiment pas les étrangers, mais qui préfèrent les gens qui leur ressemblent, disons, ok? Et là, moi, déjà, le fait qu'il soit sur ce show, je suis comme, yo, c'est pas bon, man, c'est pas mon public, là, oublie ça, là, c'est pas mon public.
Juste une question, quand ouais. Il a annoncé ton nom sur scène, combien il y a eu d'AVC dans le public?
Attends, tu vas voir, c'est pire que ça. Là, j'apprends que j'ouvre le show, donc tout le monde sait qu'ouvrir un show, c'est vraiment compliqué, mais bon, moi, je l'ai déjà fait, et puis j'aimais beaucoup le numéro que je présentais. Il cartonnait un peu partout à Montréal où j'avais joué, mais là, j'étais à Québec, c'est une autre ville, donc j'étais comme, OK, je ne sais pas si ça va marcher, mais on verra. Et là, lui, il fait son numéro d'intro, l'animateur. C'est un gros gars, là, il y a 2000 personnes dans la salle. Il fait son numéro d'intro, et son numéro d'intro, c'est je dirais, c'est 10 minutes de mise en scène sur Daesh, les terroristes, c'est des jokes de les Arabes et les musulmans, c'est des malades. Et puis, après, à la fin, il y a un Jeep qui rentre sur scène, c'est un Jeep de Daesh.
Oh, 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 oh.
Il y a un gars qui à l'époque faisait partie des médias québécois, qui était vraiment réputé pour faire des vidéos genre contre les terroristes et tout ça. Et là, ils finissent leur vidéo et là, il y a une standing ovation. Là, tous les gens sont comme... Le premier humoriste a dit, ben, quelle idée. Et là, je te jure, moi, je regardais ça. Et j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mais je vais investiguer après le spectacle parce que je refais plus jamais ce que j'ai fait pour mériter ça. Genre, et là, je monte sur scène et rien, rien. Mais quand je dis rien, ouais, c'est aucun rire pendant 7 minutes. Zéro rire, 7 minutes. Et c'est 2000 personnes dans la salle. Zéro rire, 7 minutes. Je sors de scène, moi tout de suite, je sais, j'ai déjà vécu des bits, donc je me dis, je prends mes affaires, j'ai 2 heures de route pour rentrer à la maison, et puis je vais passer à autre chose. Et le numéro était, il y a tellement pas de rire, ils l'ont coupé du montage. Genre, je suis même pas passé à la télévision, rien.
Ouais.
Et puis tu sais, des fois c'est des histoires comme ça, des fois. Tu vis des trucs comme ça, tu le sais que tu as été placé dans une situation où il n'y avait rien à faire. C'est ça aussi, des fois, je pense, si jamais il y a des gens qui écoutent puis qui veulent faire ça ou qui ne savent pas comment... Tu sais, des fois, c'est juste, il n'y a rien à faire. Les circonstances faisaient que tu devais, cette soirée-là, juste apprendre à échouer. Ça fait partie du deal.
D'accord, mais c'est quand même bizarre, je veux dire, l'humoriste en question, il savait quand même que ça allait être compliqué pour toi, surtout après avoir passé cette vidéo sur Daesh et avoir craché sur les Arabes et les musulmans juste avant. Je veux dire, c'était un piège, en fait.
Moi, je pense que les gens, ils font... si tu leur dis pas que ce qu'ils font, c'est déplaisant ou c'est grave, je pense que les gens... vont très facilement juste faire de l'aveuglement volontaire. D'accord. Ils vont fermer les yeux sur les situations et ils vont faire comme si de rien n'était. Je pense qu'on confond beaucoup trop souvent la malveillance avec, moi le premier, hein, la malveillance avec juste l'aveuglement volontaire et la paresse. C'est un mélange souvent de ces deux trucs-là qui fait que les gens font ce qu'ils font et il y a peut-être une partie d'eux qui se dit « Ah, peut-être que ça va pas l'aider », mais ils font « Mais non ». Mais non, ça va pas lui nuire. Et puis, je pense que le jour où tu dis non, ça me nuit, tu sais, ça me nuit que vous me mettiez dans une situation où je passe après 10 minutes de blagues de terroristes quand je m'appelle Al-Khalidé et que je suis irakien et que la seule fois où t'as entendu les mots Irak dans les 20 dernières années, c'est pour la guerre les 30 dernières années, c'est pour la guerre du Golfe, la guerre de 2003, puis la montée du terrorisme, c'est comme, c'est sûr que tu désavantages quelqu'un, mais d'un autre côté, c'est, je pense aussi, c'est dans ces situations qu'on peut construire son caractère et puis se dire, ouais, moi, ça dit rien sur moi cette soirée-là. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux. Au contraire, je pense que j'ai été au maximum de mes capacités en traversant tout, juste en montant sur scène, en voyant la situation, en me disant, c'est sûr que ça va pas marcher.
D'accord.
Et en y allant, et en donnant quand même le meilleur de moi-même, et en sortant de scène. Et puis, j'ai jamais appelé personne. J'ai jamais dit, pourquoi vous m'avez mis dans tête? J'ai jamais parlé à personne. Je me suis dit, OK, c'est bon. Genre, la prochaine fois, moi, quand je vois ça, là, je vois un truc comme ça. Si dans ma tête, je me dis, ça marchera pas. Et puis, ça m'est jamais arrivé. Hein, j'ai jamais fait ça. Mais si jamais on me remet dans une situation comme ça, je vais soit prendre le défi, ou si j'ai pas la force ce jour-là, me dire, je m'en vais, j'ai pas le temps pour ça. Tu sais, des fois, tu rencontres des gens, puis ils sont comme ça. C'est pas pour dire que ce qu'ils font de mal, c'est pas grave. C'est pour dire qu'ils savent même pas qu'ils font quelque chose de mal.
Oui. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, l'aveuglement, quoi.
Oui, c'est ça. Il sait même pas, lui. Le gars, il est comme ça. Puis qu'est-ce que je fasse? Je veux dire, les gens l'aiment, le public l'aime, là. Et, je sais pas, j'ai pas changé. Mais en même temps, je comprends, c'est ça.
Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Si les gens veulent me trouver, ils vont me trouver. Si quelqu'un veut, si tu veux, tu peux.
Vous tapez humoriste qui monte sur scène juste après 10 minutes sur Daesh et vous trouvez.
Et vous trouverez pas la vidéo parce qu'elle a été effacée.
C'est tellement dommage. Enfin bon, mais les gens te trouveront donc sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram.
Ouais, exactement, dans tous les
Parfait.
classiques.
Donc voilà, Adib Al-Khalidé. Tu as un site officiel peut-être?
Ouais, avec c'est mon nom, adibalkhalidi.com.
D'accord, et eh bien je mettrai tout ça, donc je mettrai le site officiel, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Ok, et eh bien merci beaucoup Adib, c'était un vrai plaisir. Merci pour toutes ces belles histoires. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.